Actu SF, les podcasts.
Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Merci d'être venu ce matin. Donc, nous avons David Brie. Je pense que tout le monde le connaît.
Bonjour à tous. C'est la faute de Floriane.
Nous avons Floriane Soulas.
C'est ma faute.
Estelle Faye.
Non, c'est ma faute. C'est moi pour, vous savez, pour me faire décoller de la table de dédicace, c'est Nora.
Et Georgia Caldera.
Bonjour. Moi, j'étais à l'heure. Fayotte plus 100.
Alors aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît le PLIB, mais aujourd'hui on va parler un petit peu des évolutions et des tendances qu'il y a eu au PLIB de 2017 à 2022. Oui, parce que le PLIB existe depuis 2017 maintenant.
Bravo.
Ça passe. Et les auteurs qui sont présents ont tous été finalistes. Ils ont eu la chance d'être finalistes. Alors, on n'a pas de gagnant. Mais sachez qu'ils le méritent tous d'être gagnants.
Merci.
Alors, les évolutions, on va un petit peu parler des tendances francophones, parce qu'il faut savoir que le PLIB, c'est de la littérature francophone qui vient de tous les horizons, hein, que ce soit la France, le Canada ou Belge ou d'ailleurs. Et on va un petit peu analyser un petit peu les choses, parce qu'il faut savoir qu'il y a des disparités et puis qu'il y a des évolutions, des tendances qui se font. Donc, on va rentrer dans le détail. Alors, je ne sais pas si vous avez le visuel. Donc, Charlotte n'est pas là. Charlotte, tu peux aller lui dire de mettre le premier slide. Oui, parce que si je vous parle sans le slide, vous n'allez peut-être pas comprendre de quoi je parle. Ça va être un petit peu compliqué de détailler un graphique. Donc, il faut savoir que dans le PLIB, en 2021, donc je vais parler des romans que j'ai pu identifier, on en avait à la base 232, et on a pu identifier, c'est-à-dire si c'était des auteurs, des autrices, et de quel genre c'était, c'est-à-dire SFFF, Fantastique, Fantasy, donc seulement pour 220, donc on partira sur ça. Il faut savoir que le PLIB, c'est seulement la première édition, un tome 1 ou un tome compagnon ou un one-shot, et auteur francophone. Donc ça, on l'a compris. Et eh bien, on avait 89 maisons d'édition qui ont édité ces 232 romans. Donc ça fait approximativement 2,6 romans francophones en littérature de l'imaginaire par maison d'édition, ce qui est très peu. Voilà. Donc pour vous donner un petit peu... Les chiffres, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, voici la répartition par tranche d'âge. Je ne sais pas. La deuxième, c'est celle d'avant. Voilà, donc on continue. On va y arriver. Encore. Voilà, donc ça, c'était 2,6 romans. Et encore. Et on va parler, voilà, c'est ça. Merci. Alors, voilà la répartition des romans par tranche d'âge de la cible et par genre des auteurs. Donc, malgré une majorité de lectrices dans le milieu SFFF, la catégorisation des romans d'autrices est assez claire. C'est très, très souvent en young adult et en jeunesse. Donc, je pense que vous pouvez le voir sur le graphique. Donc, nous observons ça depuis 2017, que les romans d'autrices seront principalement catégorisés vraiment en young adulte jeunesse. Et dans un même temps, on sait qu'il y a quand même 60% de femmes qui sont les lectrices par rapport à 40% d'hommes. Et pour le CNL, en 2021, ils avaient étudié que c'était 80% pour la globalité de la littérature, c'est 80% de femmes qui lisent ou qui achètent ou qui offrent les livres par rapport à 20% d'hommes. Alors ça, c'est pas écrit dans le graphique, mais vous pouvez retrouver ces études-là sur le CNL. Donc aussi, moi, je me pose un petit peu des questions. Donc la place du lectorat féminin, c'est la majorité et c'est devenu une normalité, même dans l'imaginaire. Et donc au PLIB, avec 227 jurés féminins et 5 jurés hommes. Voilà, donc on voit que la tendance également pour tout ce qui va être promotion de la littérature, eh ben, en général, ce sont les femmes qui s'investissent beaucoup, parce qu'il faut savoir que le PLIB, c'est des influenceuses littéraires et des influenceurs littéraires, et qui promeut en fait la littérature française. Voilà. Donc ça, c'est une tendance qui existe depuis 2017. Il n'y a pas eu de changement. Hein. En général, ils sont 3, 4, 5. C'était le grand maximum, 5. Donc, quant aux auteurs présents au PLIB, voilà, hein, c'est compliqué. Alors, on a une grosse distinction. On peut changer de slide pour le suivant. Et ça, c'est une tendance. Alors, que je ne me trompe pas, je suis désolée. Oui, c'est ça. Je vais prendre le cas de la science-fiction. Et on voit tout de suite qu'il y a une grande disparité par rapport aux autrices et par rapport aux auteurs. Alors effectivement, la femme préfère, en termes de lecture, préfère la fantasy, mais ils lisent quand même de la SFFF. Et les hommes seront plus portés effectivement sur la SF, mais ils lisent aussi de la fantasy. Donc est-ce que les résultats qu'on voit sur le graphique sont pas un peu déséquilibrés, on va dire. Alors aussi, moi, c'est une question que je me suis posée. Pourrions-nous pas nous demander si les autrices étaient plus souvent publiées en SF adulte, est-ce que cela n'entraînerait pas les lectrices vers le rayon de la SF adulte ? Et idem pour la fantaisie. C'est une sorte d'habitude pour la femme, peut-être, d'aller directement dans le rayon, là où on aura plus d'autrices. Alors, les lectrices, voilà, s'orienteraient davantage. Ma question est là. Enfin, une longue introduction. Pensez-vous donc que les autrices arrivent à obtenir donc une position adéquate par rapport à leurs écrits ? Et surtout, que pensez-vous de mettre plus souvent les autrices en adultes, et donc ça entraînerait les autrices, oui, les lectrices ensuite, dans le rayon correspondant.
Alors, alors oui, je pense carrément que ce serait, ça aiderait un petit peu à renouveler ce rayon en fait d'imaginaire adulte qui, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais moi personnellement j'en ai fait l'expérience en librairie. En ce moment, le rayon imaginaire adulte s'appauvrit complètement. Il y a des grosses réductions très très souvent, notamment dans les FNAC, au profit en fait, du rayon jeunesse, young adulte, ce qui est très bien puisqu'il y a aussi beaucoup d'imaginaire et tout, donc c'est très bien. Mais en même temps, et au profit aussi du coup de tout ce qui est littérature plus mainstream, contemporaine, blanche, voilà. Et pour l'ASF, je pense que ce qu'il y a aussi, c'est que il y a un peu une confusion du genre, parce qu'on pense naturellement que l'ASF, ça va être ce qu'on appelle la hard science. Donc l'hard science, en fait, c'est de la science-fiction, mais avec beaucoup de notions scientifiques. Donc très, très ardu à lire, alors qu'il y a aussi beaucoup de science-fiction, en fait, qui n'entraînent pas, enfin, ne comprennent, enfin, il n'y a pas de ces notions, en fait. Typiquement, on en parlait hier soir, Hyperion, qui est un classique du genre, de la SF, c'est pas de l'art science, parce qu'il n'y a pas de notions scientifiques poussées, avec des théories sur des notions scientifiques poussées. Contrairement, par exemple, au problème à trois corps, qui est un excellent roman aussi, mais qui, lui, va partir à la... appartenir à la hard science, puisque effectivement il fait appel à beaucoup de connaissances en fait en cosmologie. Et du coup, je pense que c'est ça qui a tendance un petit peu à freiner les lectrices vers ce genre, en se disant que peut-être c'est un peu trop ardu pour elles, et ce qui est dommage en fait, parce que tout comme les jeunes filles se dirigent plus rarement vers les filières scientifiques, Et ça, ce n'est pas une question de compétence, c'est seulement une construction sociale. On leur dit, moi, quand, par exemple, hein, parce que bon, je vais parler de mon expérience personnelle, puisque bah, je me connais bien. Quand j'ai commencé au collège, on m'a dit, ah, t'es très bonne en français, c'est bien. Écoute, les maths, de toute façon, pour les filles, c'est plus compliqué. Laisse tomber, va plutôt sur les langues, le français. Et naturellement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bah oui, c'est normal, voilà. Et j'ai fait un bac L, puisqu'à l'époque, c'était classé comme ça. Et je me suis dirigée, du coup, vers ce genre de cursus. Et je me suis toujours dit aussi que la science-fiction, c'était pas pour moi. Et j'ai découvert peu à peu qu'en fait, j'adorais ça. Et que même la hard science, en fait, je pouvais aimer. Et que toutes ces questions bah, m'intéressaient, me plaisaient. Et c'est pas parce que je suis une fille, c'est complètement idiot de penser ça, que ces notions ne vont pas me plaire, m'intéresser, et que je ne vais pas pouvoir les comprendre. Et donc, je pense que déjà, effectivement, s'il y avait un peu plus de femmes qui se disaient, d'autrices, qui se disaient que ce genre est abordable et qu'elles peuvent s'y mettre si elles en ont l'envie, bah, on aurait plus d'autrices de SF et donc on aurait plus de propositions dans ces rayons et on pourrait un peu plus affirmer la place des femmes en science-fiction.
Et donc ramener les lectrices vers le rayon.
Et donc ramener les lectrices aussi vers la science-fiction.
C'est un peu la même chose, je trouve, pour la fantasy aussi. Souvent,
oui.
La fantasy adulte, c'est souvent les hommes qui seront mis en avant, d'ailleurs, je trouve.
Alors, oui.
De manière générale, les hommes sont mis en avant.
Oui, de manière générale. Mais nous sommes là, lectrices.
Comme tu veux, puis après. Parce que du coup, moi, j'ai plein de trucs à dire, parce que moi, j'ai fait des sciences, pour le coup, et je suis ingénieure. Et en fait, je me reconnais dans plein de trucs que tu dis, parce que, donc, du coup, moi, je me rappelle très bien que quand j'étais en terminale, alors en fait, j'ai fait une année, genre, j'étais à la limite en échec scolaire, parce que voilà, il se passait plein de trucs dans ma vie perso, ça allait pas du tout. Et du coup, je passais de. Enfin, j'ai eu un bac S avec 8 en maths. Hein. Ça m'a pas empêché de faire une thèse derrière. Et en fait, je me rappelle de ma prof principale à l'époque qui m'avait dit que jamais je ferais rien en sciences, que j'avais pas l'esprit pour ça, que j'étais trop littéraire et qu'il fallait que j'abandonne là parce que de toute façon, c'était pas un truc pour nous les filles et que j'arriverais à rien dans la vie, quoi. Elle m'a dit ça. Hein. J'avais 17 ans. Et du coup, j'ai dit non, mais en fait, moi, je veux faire des sciences. J'adore les lettres et j'adore les sciences. Et si j'abandonne les maths maintenant, je n'en referai plus jamais. Parce que c'est trop compliqué d'être. Enfin, c'est pas trop compliqué. Certains y arrivent, hein, mais moi, je me dis, je suis hyper feignante. Ce sera trop compliqué pour moi derrière de revenir en autodidacte sur des sciences dures. Alors qu'en fait, la littérature, je peux la lire, je peux continuer à me nourrir de ça. C'est quand même plus accessible que des cours de théorie mathématique un peu compliqués, quoi. Donc j'ai persévéré dans ce truc-là. J'ai fait des sciences. Et du coup, c'est un truc que je me suis rendu compte après. Quand j'ai commencé à écrire des nouvelles de SF, eh ben, je me suis rendu compte que c'était là que je m'éclatais le plus. Et je me suis rendu compte que je me trouvais des excuses pour ne pas les écrire. Et je me disais... Et mon excuse principale, ma préférée de toutes, c'était... Non, mais en fait, je n'ai pas les compétences d'écriture pour faire ce que je veux là. Donc, je ne le fais pas. Jusqu'à ce qu'Estelle, un jour, me dise, mais pourquoi juste t'écris pas ton truc? Et puis, de toute façon, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et puis, si ça marche, ça marche. Et c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais en fait, mais c'est ça que je veux faire. C'est là que je m'éclate le plus, en fait.
Et d'ailleurs, les oubliés de Lama ont ramené énormément de
lectrices. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, du coup, si c'est ça que j'ai envie de faire, je vais faire un roman de SF. Parce que, en fait, moi, je suis scientifique, donc j'ai plein de trucs à dire. J'ai pu mettre du sexisme dans les sciences dans mon roman. J'ai pu faire, moi, ce que je voulais faire, c'était de la hard science accessible. Donc, en fait, il y a un concept scientifique qui est évoqué dans le livre qui est important pour l'histoire et que j'explique. Mais j'essaie de le faire, alors vous me direz si j'ai réussi ou pas, mais de le faire d'une certaine façon que même si vous ne comprenez pas tout, vous saisissez suffisamment le concept pour continuer à apprécier l'histoire, même si les petits détails vous ont échappé, quoi. Parce que le but, justement, c'est de lire un roman que moi, je n'avais pas pu lire quand j'étais ado. Parce que moi, j'avais intégré, en fait, mais je m'en suis rendu compte à ce moment-là, que la SF, c'était écrite par des mecs, pour des mecs. Et que moi, je n'étais pas un mec. Et que du coup, je n'avais pas les compétences ou l'appétence, alors que putain, j'ai fait une thèse quand même, merde, en physique, quoi. Et ben, il m'a fallu 10 ans, quasiment après ma thèse, parce que je suis vieille, pour réussir à me dire, mais en fait, si, je peux le faire, et en plus, j'ai envie de le faire, et alors pourquoi je le ferais pas? Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais écrire le livre que moi, je voulais lire quand j'étais ado, et qu'en fait, mon père n'avait jamais pu me faire lire, parce qu'il me filait ce qu'il avait lu. Donc, c'était Asimov, Van Vogt, c'était Hyperion, qui sont de très bons livres, alors sauf Van Vogt, il ne faut pas relire, ça n'a pas bien vieilli, mais c'était des bons livres, j'ai adoré ces livres-là, mais jamais j'ai pu m'identifier vraiment à ces personnages-là. Ce n'était pas des femmes, il n'y avait pas de femmes dans ces livres-là. Asimov, quand il met une femme, soit c'est la méchante, soit c'est un sidekick qui n'a aucune importance, quoi. Je voulais écrire un livre que moi, je pouvais voir. Et en fait, je m'en rends compte que plein de lecteurs et de lectrices, déjà, je me rends compte qu'il y a vachement de femmes qui lisent de l'ASF. Parce que je demande souvent, alors du coup, tu lis de l'ASF ou, Et en fait, il y en a plein qui le lisent, de plus en plus. Et je pense que ça a été, pour le coup, un bon tremplin de commencer en young adulte et de fidéliser, entre guillemets, un lectorat qui, derrière, te suit et voilà, qui, après, te suit en SF et tout, et d'essayer de faire des choses qui sont... que toi, tu as envie de lire. En fait, je suis une lectrice comme vous. On est tous des lecteurs et des lectrices comme vous. Et en fait, ce qu'on a envie de lire, ben, forcément, il y aura des gens qui auront envie de le lire aussi. Et c'est une manière aussi d'amener le lectorat derrière nous à la conquête de la SF.
Mais, et de la fantasy aussi. Hein. Ouais. Il y a pas que... Pas,
mais... Alors ouais, je vais rebondir sur ce qu'ont dit mes deux voisines. Et déjà, j'ai l'impression, et quand je parle beaucoup à des autrices et tout, moi, j'ai eu une grande chance dans ma vie. Une de mes héroïnes dans la vie réelle, c'est ma mère. Elle a fait des sciences, elle a un parcours de malade. Et quelque part, ça, voilà, c'est elle qui m'a appris, mais sans avoir besoin de me l'asséner dans la tête, juste parce qu'elle faisait. À la fois que c'était quand même super dur pour une femme, même avec un énorme parcours, de faire son chemin. Mais aussi que c'était possible et qu'il ne fallait pas justement donc se dire qu'on n'était pas compétente ou tout ça. Et vraiment, j'ai grandi là-dedans. Donc c'est vrai que j'ai grandi avec une assurance que je vois culturellement beaucoup de femmes n'ont pas. Et qui leur manque souvent. Et je vois la différence, c'est vraiment ça, ça a été une très grande chance, donc merci à elle. Après, sur ce que, aussi, mon parcours, donc j'écris aussi bien en adulte qu'en young adulte qu'en jeunesse. Et à l'automne dernier, j'ai sorti deux romans, un en young adulte et un en adulte. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Georgia, il y a aussi le fait de pouvoir être simplement visible dans les rayonnages. Et quand je fais l'arpenteuse de rêve, avant même la sortie du livre, il est parti en réimpression, tellement les libraires et notamment les FNAC en ont commandé. Ouijigo, il est chez un plus gros éditeur techniquement, il est chez Albin Michel. La centrale d'achat des FNAC ne l'a pas pris. Voilà, donc c'est ça quand même, ce qu'il faut voir. C'est que c'est infiniment plus facile d'être distribué en young adulte, dans mon expérience, quand on est une femme. Après, il y a certaines FNAC qui l'ont pris avec les libraires FNAC et tout, quand même. Mais évidemment, ça se retrouve dans les chiffres, parce que le premier truc, c'est qu'il faut qu'un roman il soit visible dans les rayonnages. Simplement, si, même avec les lecteurs et les lectrices les plus passionnés et de la meilleure volonté au monde, au bout d'un moment, si vous allez dans votre librairie et qu'il n'est pas là, il n'est pas là, quoi. Alors après, il y a plein de facteurs qui expliquent ça. Hein. Ce n'est pas juste une mauvaise volonté des FNAC. C'est juste un exemple pour dire qu'il y a plein de blocages en amont et tout, donc ce n'est pas... Ce qui est difficile, en fait, c'est que ce n'est pas la faute d'une personne. C'est beaucoup plus un système global qui est à questionner. Mais il y a plein de gens de bonne volonté partout, encore une fois. Je ne veux pas jeter la pierre sur les FNAC en disant « boum, méchant ». Ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un système global qui fait qu'au fil du temps, les romans que j'écris en adulte ont été de moins en moins visibles. Paradoxalement, j'ai un roman en adulte qui a vraiment bien marché, grâce au Plim notamment.
C'est Les Révoltés
Merci.
De Bohème.
C'est Les Seigneurs de Bohème. Ouais,
révoltés,
voilà.
Pardon, le deuxième.
Et ça, c'était vraiment... Merci, Loplib, je vous aime. Et donc ça, quelque part, je me suis dit, c'est mon roman qui va faire qu'en adulte, ça va décoller aussi. Et après, j'ai créé un deuxième dans le même univers, qui est Les Révoltés de Bohème. Et là, c'est très simple, j'ai eu la pire distribution toute ma carrière. La distribution, c'est en gros comment le roman va être placé dans les librairies. Alors qu'avant, j'ai eu un roman qui avait super bien marché. Et quand je parle avec d'autres autrices, c'est un truc qu'on vit souvent, en fait. C'est-à-dire que souvent, pour un mec qui va faire un roman adulte qui marche vachement bien, ça va avec son breakthrough. Et après, ses romans, ils vont marcher de mieux en mieux. Moi, j'ai un roman qui a vachement bien marché, c'est super. Et après, pouf.
Et il faut absolument faire beaucoup plus de communication.
Et il faut faire énormément de communication. Clairement. Et aussi, le problème, c'est que c'est beaucoup plus dur de trouver des relais de communication. Moi, je vois, j'ai des éditeurs qui tous bossent énormément sur la com. Donc, je les remercie énormément. Et je vois Gilles Dumais, mon éditeur chez Albin Michel, il sait quand il prend des femmes. Des autrices, que ça va être beaucoup plus dur de trouver des relais de communication. Et quand même, il bosse. Et il, franchement, notamment en Space Opera, il a publié Émilie Kerbalek, c'était son deuxième roman, le premier était sorti chez un micro-éditeur. Et comment il a bossé pendant des mois pour l'installer dans le paysage. Il fait un travail de malade, quoi. Mais il sait qu'il doit faire ce travail de malade, et même en s'accrochant, pour simplement avoir un peu de presse, c'est tellement plus compliqué, quoi. Et voilà, c'est, quand je dis que c'est un système, c'est pour ça, c'est qu'un éditeur qui va nous publier en adulte, il sait qu'il devra bosser beaucoup plus que pour un mec pour même pas forcément avoir les mêmes chiffres de vente. Aussi, j'en parlais avec des gens de l'Observatoire de l'Imaginaire, la place des femmes dans les prix adultes a reculé même ces dernières années. Or, un prix, c'est quoi ? Un prix, ça nous rend visible. Une sélection dans un prix, ça nous rend visible. Donc, il y a plus de libraires qui vont le commander, il y a plus de lecteurs qui vont savoir qu'on existe. Et pareil, après, il y a des éditeurs qui vont se dire, bah, c'est quand même un bon plan. Aussi, mine de rien, parce que ça compte. Donc, on va pouvoir être publié plus facilement. Donc, il faut, oui, écrire de l'adulte, oui, mais après, aussi que nos romans adultes, ils soient visibles, que les lecteurs sachent simplement qu'ils existent. Moi, je veux dire, Les Révoltés de Bohène, encore 3 ans après sa sortie, je croisais des lecteurs qui aimaient mes romans, qui suivaient mes romans, mais qui simplement sont pas trop sur Internet parce que c'est pas leur truc, et ils savaient pas qu'il était sorti. Voilà. Donc, et après, il y a un deuxième phénomène quand même pour moi, et qui fait que j'adore écrire de la jeunesse et du young adulte, c'est que les romans adultes, surtout ceux qui sont mis en avant, sont quand même encore très souvent des romans très sages, qui restent dans des cases très classiques. Et mine de rien, un truc qui est génial en young adulte, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est beaucoup en lire, c'est qu'en young adulte, je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des lecteurs, des lectrices de young adulte dans la salle ? Ouais. En young adulte, il y a quand même des personnages, des univers, des thématiques, mais qui déboîtent tellement, quoi. Voilà. Et en young adulte, il y a des trucs tellement fun. Ce que je veux dire, c'est en adulte, c'est tellement difficile de placer un roman fun. En young adulte, on a le droit de faire des romans fun. En young adulte, on a le droit de faire des personnages qui pètent toutes les cases. En young adulte, on a le droit de faire des personnages féminins à la fois hyper badass, cassés de partout et tout. Et on a le lectorat qui suit, quoi. Et donc, forcément, on en fait plus. Et après, je sais pas pour vous, mais moi, je sais que si je vais prendre un bouquin de young adulte, j'ai quand même énormément de chance de tomber sur une histoire super originale, sur un style super enlevé, sur un truc qui va être aussi un super moment d'évasion, divertissement et de lecture, tout en ayant du fond et des thématiques super actuelles. Et c'est aussi pour ça que j'en lis. Donc quand même, il y a un moment, il faut être fier, je pense, du boulot qu'on fait en young adulte, parce qu'il est là et qu'il a un sens et qu'il existe. Et après, le boulot qu'on fait aussi en jeunesse, n'est-ce pas ? Voilà. Parce qu'en jeunesse, il y a de plus en plus de choses qui se passent. Il y a aussi bien des collections qui se montent dans des maisons d'imaginaire qu'on faisait pas avant. Mais il y a aussi un truc qui est génial, c'est qu'il y a des gros éditeurs jeunesse qui faisaient pas ou très peu d'imaginaire, où c'était pas vraiment repérable, et qui montent des collections. Donc ici, je voudrais saluer le travail de Florence Bruyot chez Nathan, n'est-ce pas ? Et voilà, et qui viennent chercher des auteurs d'imaginaire pour leur dire « Mais venez faire des choses avec nous !» Et là, voilà, et ma petite avant-première du festival que j'adore, c'est... voilà, enfin, je ne dis pas que le roman est bien, mais j'ai adoré le faire. Et je trouve que c'est une super opportunité. C'est la collection Court Toujours, qui est une collection de romans très courts, très coup de poing chez Nathan, qui est un peu la collection prestige, avec bonne critique et tout, tout ça. Et avec des super auteurs jeunesse qui viennent faire des romans incroyables. Et là, on m'a demandé d'écrire le premier roman de fantasy de Court Toujours. Et c'est juste génial. Et c'est ça qui se développe aussi en ce moment. Donc la jeunesse, je pense qu'il y a des lecteurs et a fortiori des lectrices qui y vont, parce que juste, c'est un monde qui est tellement plus libre.
Je passe le micro. Je voudrais juste rebondir sur un truc qu'elle a dit. En fait, je pense aussi qu'il y a un troisième phénomène, c'est le lectorat, en fait. Je pense que les lecteurs du young adult, ils n'ont aucun mal à aller vers l'adulte, en fait. Ils vont y aller. Sauf que comme il n'y a rien, bon, bah, ils n'y restent pas. Mais en fait, ils ont la curiosité. En fait, c'est un lectorat qui est hyper curieux, qui cherche des histoires hyper cool. Donc eux, ils vont aller voir l'adulte, ils vont aller voir la jeunesse. En fait, ils sont hyper ouverts. Alors que ceux qui lisent vraiment de l'adulte, ils ne vont jamais aller dans un rayon young adulte.
Mais c'est parce que le lectorat est très souvent les femmes.
Et voilà. Et du coup, en fait, ils se privent de plein de choses. Et comme les rayons sont pauvres, et ben, en fait, ils lisent ce qu'on leur donne. Donc voilà. Mais je pense qu'en fait, il y a un phénomène de lectorat aussi qui est en train de monter, où on est de plus en plus nombreux dans ce truc-là. Et on va prendre le pouvoir, c'est sûr. C'est juste que ça prend du temps.
Moi, j'ai rien à dire.
Moi, j'ai une question quand même pour toi.
Je vais rebondir parce que je suis le seul bonhomme de la bande. Et c'est des discussions qui sont intéressantes. Et Estelle, on en a déjà parlé. En tant que bonhomme, c'est des choses que je ne vois pas. Donc, la première chose que je veux dire, c'est que il faut que ça soit dit. Parce que quand on ne subit pas ces difficultés-là, moi, j'ai aucune de ces difficultés-là. Peut-être que j'ai de la chance, etc. Mais je pense, parce que j'écoute, qu'en effet, c'est parce que je suis né garçon. Une chose qui est très importante, c'est qu'il faut qu'on l'entende. Et la question, c'est comment être un bon allié. Parce que moi, quand même, un truc qui me sidère, c'est que... Alors moi, j'aime beaucoup la diversité. Moi, si vous voulez me faire fuir de quelque part, vous invitez 10 David Brie, et je vous promets, je pars en courant. Je déteste ça. Moi, j'ai la chance de vivre dans un monde perso où j'ai des gens de tous les métiers, de toutes les couleurs, de toutes les origines, de tout partout, et ça m'enrichit tout le temps. Dans le monde de l'imaginaire, c'est la même chose, et que si on ne parle pas des difficultés qu'on a, on ne peut pas être des bons alliés. Être un bon allié, c'est quoi? Bah, je ne sais toujours pas, j'essaye de l'être. Et pourquoi je le fais? Parce que déjà, j'y crois, mais et c'est la seconde chose que je veux dire, c'est que les bouquins, les romans qu'on écrit, comment est-ce qu'on fait pour toucher les lecteurs? On touche les lecteurs en faisant en sorte qu'ils puissent vivre quelque chose avec nous. Qu'ils puissent, c'est un peu comme si on lui prenait la main, on lui dit « Allez, viens, je t'emmène dans mon monde, je t'emmène dans mon histoire, et tu vas voir, ça va être chouette. » Sauf que si on n'arrive pas à lui proposer des personnages qui lui ressemblent, si on n'arrive pas à lui proposer des personnages qui le touchent, on ne pourra pas l'emmener avec nous. Et il y a un truc qui m'a toujours étonné, et je trouve ça vraiment très dommage, c'est que les garçons lisent des histoires de garçons, et les filles lisent aussi bien les histoires de garçons que des histoires de filles. Eh bien, c'est nul. C'est nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs, on leur a jamais appris à se mettre dans la peau d'une nana, parce qu'une nana, c'est nul. Eh bien, franchement, quel boulot on a. On est en train de le faire, ce boulot, hein, tous collectivement. Mais il y a cette question-là de la place de la femme, mais il y a aussi la question de l'ensemble des minorités, et notamment, moi, un truc et pareil, on y travaille tous, quand vous regarderez la table des auteurs, comptez le nombre de personnes non blanches. Il n'y en a pas assez. Sauf que la France, ce n'est pas 95% de blancs. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. La France, c'est un pays qui est métissé, c'est un pays qui est multiculturel. Quand même, on voudrait nous faire croire qu'on est tous des descendants de Gaulois, ce n'est pas le cas. Et il faut qu'on... Il y a ce sujet de la place de la femme qui est fondamental et qui est peut-être plus dur d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est installé et qui sera peut-être moins visible. Mais aussi la place de l'ensemble des minorités, parce qu'on se plaint, on dit « Oh là là, il n'y a pas beaucoup de jeunes lecteurs, dans les cités, ça ne lit pas, etc. Et les gens de telle ou telle origine, ils lisent moins. » Mais putain, mais faisons des personnages aussi qui peuvent les toucher. Moi, David Brie, issu d'un milieu petit bourgeois, moi, je vais avoir du mal à toucher ces gens-là. Je peux les toucher avec d'autres choses, évidemment, et j'essaye de le faire. Il faut qu'on ait une plus grande proposition pour pouvoir parler à tous, à chacun, aux jeunes filles, mais aussi aux autres. Et je vais juste terminer parce que je parle longtemps. J'ai lu récemment Les Oubliés de la Mare. Et ce que je trouve génial, et j'en parlais avec une lectrice ce matin qui est venue me voir, et je lui ai dit lisez Les Oubliés de la Mare, c'est que c'est moderne. Moderne, ça ne veut rien dire, sauf qu'en fait, c'est des héroïnes qui ont quelque chose de moderne, qui sont là, qui en veulent, mais sans en faire trop. C'est juste moderne, présent, actuel. Et moi qui suis un mec, je me suis régalé avec Les Oubliés de la Mare, où c'est une histoire où il n'y a quasiment que des nanas. Et ben c'est génial. Et il faut absolument que ce genre de lecture existe, parce que je vous rejoins toutes les trois. Hein. Une femme, elle est tout aussi capable. Elle est ingénieure. Moi, je suis nul en sciences. Les nanas, elles peuvent faire ça. J'avais lu Porcelaine il y a longtemps. Porcelaine, qui est un bijou de poésie. C'est extraordinaire. Enfin bref, il y a des histoires fantastiques. Et la diversité des histoires que l'on peut raconter, c'est aussi la diversité des gens que l'on peut toucher. Et ça, moi, je trouve ça fondamental. Et c'est un combat en plus du combat pour l'électorat féminin.
Mais je vais rebondir justement sur ce que tu dis, parce que ça tombe bien, c'est dans mes questions. On a de plus en plus au PLIB... pardon. On a de plus en plus de diversité dans les romans, et surtout en young adulte, comme tu disais, ça rejoint hein, totalement ce que tu disais. Au PLIB, depuis 2017, tout ce qui va être diversité, tout ce qui va être LGBTQIA+, tout ce qui va être effectivement les couleurs, etc., on a tous les genres, et également tout ce qui va être écologie, hein, avec collapsologie, ou tout ce qui va traiter de la nature et de la biodiversité. Alors, c'était aussi une de mes questions. C'est avez-vous intégré, vous, dans vos romans, alors je le sais bien, hein, mais pour ceux qui nous écoutent, avez-vous intégré des personnages justement diversifiés et, ou bien encore, comment vous avez traité les sujets forts tels que la collapsologie, je pense notamment aux Brumes de Cendrelune, et comment est-ce que vous le voyez avec votre prisme d'auteur? Tu vois, ça rejoint exactement.
Mais du coup, c'est une vraie question. Et c'est aussi une responsabilité de l'auteur ou de l'autrice. C'est-à-dire que c'est là où il faut aussi dépasser, je pense, essayer de dépasser ce que l'on est. Et il faut parler de ces sujets-là, mais de manière qui soit honnête et qui nous touche. Moi, un truc qui m'a frappé, je m'en suis rendu compte qu'après, j'ai fait une série jeunesse chez Nathan grâce à Florence Bourriaud, mais aussi grâce à Estelle qui m'a beaucoup encouragé. Et en fait, mes petits héros, c'est trois petits blancs. Sauf que moi, dans ma vie personnelle, mon monde à moi, il ne ressemble pas du tout à ça. Et j'adore ma série des Héritiers de Brézène. C'est une série qui parle de mon enfance à moi. quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais David, ton monde, c'est pas que ça. Et regarde aussi ce qui se passe autour de toi, et regarde tous ces sujets-là. Et du coup, je vais faire d'autres séries jeunesse et je suis hyper content. Et ben, en fait, je vais aussi travailler ça. Parce que j'ai envie, parce que c'est aussi des questions de valeur, hein, c'est des questions de conviction que l'on partage toutes et tous. Et donc, notre travail aussi, c'est de faire ça. Mais je pense qu'il faut être attentif à la fois en parler, tout en laissant la place aussi aux autres. Mais là où je trouve ça important, c'est que, ça parle de ce que je crois, c'est que si on veut être un bon allié, on doit aussi parler. Il ne faut pas laisser la parole qu'à certains. On peut aussi être là, dire ce qu'on en pense, tout en restant à sa place. Hein. C'est important. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas, de couleur, ce n'est pas parce qu'on n'est pas comme ci, comme ça, qu'on ne peut pas aussi en parler. Et dernière chose là-dessus, quand on travaille ces sujets-là, on est tous des auteurs sérieux, professionnels, on se fait relire, on se fait conseiller et on sait de quoi on parle. Après, personne n'a la science infuse. Et je vais juste prendre une petite anecdote pour expliquer la difficulté de cet exercice. J'ai écrit une nouvelle récemment avec des personnages noirs et j'ai même aussi dans un roman des personnages noirs et je trouve ça super important qu'il y en ait parce que mon monde, il est comme ça et le monde est comme ça, quoi qu'on veuille en penser. À un moment, il y avait la question de la couleur, comment on définit la couleur de la peau. Et ça, il y a autant d'avis différents que de personnes, quasiment. Moi, dans mes amis très proches, j'ai beaucoup de personnes noires qui me disaient, j'avais écrit au début la peau au chocolat. Et ils trouvaient ça chouette. Quand je fais relire ça à d'autres personnes, ils me disent que c'est raciste. C'est une question qui est éminemment compliquée et que quand même on veut faire, nous, ce travail sérieusement, j'essaye de le faire en tout cas, on voit qu'on touche à des choses qui sont très complexes, qui doivent être travaillées. Et dans ce sens-là, toutes les réflexions qui sont des fois pleines de colère, qui est légitime, qui sont des fois pleines dans l'autre sens de choses qui ne sont pas très cool, ça nous permet, nous, d'avancer, de travailler ces questions. Et il faut absolument les travailler. Donc oui, je crois que, puis on va voir ce que vous allez en dire, mais ça nous occupe, ça nous préoccupe, et on veut en parler de la meilleure manière
et
possible.
Et c'est important, voilà, de tous ces intégrés.
Mais après, tu disais, il y a beaucoup de romans donc, sur les problématiques LGBTQIA et puis la représentation aussi. Donc, en fait, pour compléter ce que tu dis, je pense qu'il faut faire la différence entre faire de la diversité et mettre de la représentation et faire du own voice. Donc, nous, en tant que personne blanche, on ne fera pas de own voice. Parce qu'en fait, moi, je pense... Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le faire au début parce que je ne me sentais pas légitime de le faire. Mais en fait, je me suis dit que c'était hyper important de mettre de la diversité et de la représentation. Mais du coup, j'écrirai jamais un livre sur le racisme, quoi. Et je parlerai jamais, parce qu'en fait, moi déjà en tant que femme, je subis un sexisme, voilà, je connais ça, donc je peux parler de sexisme, mais je pourrais jamais, enfin ma problématique, c'est que le sexisme. Je pourrais jamais parler du sexisme que subit une personne racisée ou une personne musulmane ou un truc comme ça. Moi j'ai mes problèmes de femme blanche, cis, hétéro, nul quoi, mais ça s'arrête là. Donc par contre, je peux mettre de la diversité, je peux mettre des personnages noirs sans en faire l'enjeu de l'histoire. Et voilà, c'est ma manière à moi, je pense, de dire que voilà, je participe en tant qu'allié à cette représentation-là, mais je ne peux pas faire plus. Enfin, je ne peux pas aller dans des thématiques qui ne me concernent pas et dans lesquelles je n'ai pas mon mot à dire parce que je n'ai rien à dire. Je ne peux que soutenir, en fait, mais pas parler pour ces gens-là. C'est ce qui a été mal perçu, je pense, dans l'anthologie, par exemple, où le titre était peut-être mal choisi.
Oui, par rapport à l'afrofuturisme. Voilà.
Mais jamais je me placerai comme personne qui va parler pour les personnes concernées. Donc, il aurait été peut-être plus approprié de mettre un terme futurisme. Mais donc voilà, j'ai fait de mon mieux pour faire de la représentation et dire ce que j'avais à dire. Mais voilà, je ne serai pas là pour parler pour les gens qui sont concernés à ma place. Et du coup, voilà, dans mes romans maintenant, j'essaye là dans mon nouveau projet, j'ai des personnages noirs et métis, mais ce sera pas du tout l'enjeu du roman. Mais ça m'a semblé important.
Oui, mais ils sont présents.
Ça m'a semblé important, mais comme en fait, tu vois, tu disais dans mon roman Les Oubliés, il y a que des femmes. Moi, mon combat, c'est un combat genre hyper sneaky, de juste faire les choses sans en parler, pour que ça devienne normal, en fait. Parce que si on est tout le temps là à rabâcher, oui, mais il faut mettre des femmes, il faut mettre des femmes, en fait, il faut que ce soit un non-sujet. Il faut que ce soit tellement devenu évident et normal qu'on n'ait même plus besoin de le mentionner, parce qu'en fait, juste, c'est comme ça. Et si t'es pas content, on va lire autre chose. Nous, on fait ce qu'on a à faire, et voilà. Et voilà. Et maintenant, dans mes romans, ça me semble important de plus en plus de faire de la représentation, mais déjà parce que c'est pas ma place, et parce que je veux pas faire un sujet... Juste, je le fais, et puis advienne que pourra.
Et d'ailleurs, on a les personnes handicapées aussi, on a de plus en plus de représentations diverses et variées dans les romans qu'on retrouve au PLIB.
D'accord.
Ça sera peut-être plus pour
collapsologie pour...
Alors oui, 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 par rapport effectivement à l'effondrement, bah, notamment dans les brumes de Cendrelune, en fait, qui est de la science-fiction, plus exactement une dystopie. Je parle de l'effondrement, je parle beaucoup des questions d'écologie, des questions qui moi me préoccupent énormément, mais comme beaucoup et de plus en plus d'entre nous. Et là, dans le roman dont je viens de terminer le premier tome, qui s'appelle « La cité des songes » et qui va sortir en octobre, ma question, ma thématique principale, c'est le féminisme. En fait, je me sers de l'imaginaire pour déplacer un problème dans une autre société de l'aborder avec un nouvel angle. Et en fait, c'est parce que c'est des questionnements, c'est pas une question de moralisation ou quoi que ce soit, ce sont des questionnements que moi, je me pose. Et moi, j'avais envie de voir ce problème-là sous un angle différent. Et donc, c'est pour ça que... c'est aussi pour ça que moi, j'adore l'imaginaire, et en particulier ce qu'on peut trouver finalement en young adulte et en jeunesse, où il y a beaucoup plus d'inclusivité et où on va beaucoup plus traiter ces questions-là, et où justement, en fait, on essaie de créer des expériences de pensée pour les lecteurs, où on va poser ces questions qui sont des questions très réelles, qui appartiennent à notre société, mais on va les déplacer, on va modifier l'angle. Et ça permet en fait de prendre un certain recul. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi sur énormément de thématiques. Et j'ai envie aussi d'avoir cette même démarche en tant qu'auteur, et aussi parce que le sujet m'inspire énormément. Quoi. Donc, voilà. Et en fait, dans La cité des songes, c'est une cité où... c'est un monde, pardon, où... il y a des rhénomes. En fait, la majeure partie des territoires sont des rhénomes, donc des royaumes mais gouvernés par des reines, et où un seul royaume persiste. Et mon héroïne, qui vient d'un rhénome, va être obligée en fait d'aller dans ce royaume au fonctionnement évidemment patriarcal. Voilà.
Bah alors. Je rebondirai un peu sur des choses qui ont été dites. Disons, pour moi, il y a un double mouvement qui m'intéresse beaucoup dans l'imaginaire, et ça rejoint finalement ce qu'on dit. Donc, les autres de la table, c'est qu'il y a à la fois, et notamment en jeunesse, parce que les jeunes lecteurs ou les lecteurs ados, évidemment, ils voient qu'ils vivent dans un monde qui est hyper problématique et qui est de plus en plus menacé. Et ils ont une vision du monde beaucoup plus sombre que celle que moi j'avais à leur âge. Et franchement, c'est pas hyper cool, quoi, qu'on leur ait donné ce monde-là. Et de toute manière, ils parlent de ça, donc nous aussi, on parle de ça. Et il y a une exigence, je trouve, qui est très juste et très pertinente des jeunes lecteurs pour qu'on parle, mine de rien, aussi du monde tel qu'il est et des enjeux du monde tel qu'il est. Et ça m'intéresse beaucoup d'en parler, pas qu'en jeunesse, mais notamment en jeunesse. Et après, il y a l'imaginaire et cette force de l'imaginaire qui est de pouvoir prendre du recul, décaler le regard pour essayer de voir les choses sous un nouvel angle, pour essayer de voir les choses différemment. Et voilà, c'est toujours dans ce doux mouvement en fait que je pense j'inscris mes romans. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup écrire avec donc des époques historiques, de voir comment, mine de rien, l'humanité à d'autres époques a géré les enjeux de d'autres époques, les échos que ça peut avoir avec notre époque ou pas, etc. Enfin, ça me passionne complètement. Et sur les thématiques écologiques, sur le dérèglement climatique, tout ça, j'ai eu la chance de participer à une anthologie qui s'appelle Nos Futurs, avec des chercheurs donc, qui sont à la pointe sur toutes ces thématiques-là et qui ont travaillé avec des auteurs. On a beaucoup réfléchi. En fait, aussi, une des grosses questions, c'est comment à la fois réfléchir et parler de ces thématiques qui sont si lourdes sans... complètement se désespérer et dire de toute manière on peut plus rien faire, donc on va se rouler en boule dans un coin et attendre la fin du monde, quoi. Ce qui est mine de rien aussi une impasse en fait, parce qu'effectivement il faut agir, mais agir comment, agir quand, etc. Et ce qui est génial avec la fantaisie et une des grandes forces de l'imaginaire à laquelle je crois et à laquelle je ne veux surtout pas renoncer, c'est que c'est une littérature d'évasion au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire que ça permet vraiment de se détacher d'un quotidien qui, par moments, est tellement présent qu'il nous empêche, limite, de réfléchir, pour pouvoir à la fois respirer, être plus libre et, mine de rien, pouvoir voir le monde aussi avec des yeux plus libres. Et ça, l'évasion, c'est une des forces de nos littératures. Et ça nous permet de considérer les choses en étant peut-être un peu moins écrasés par le poids de nos responsabilités et de pouvoir réfléchir un peu plus loin aussi. Et mine de rien, bah voilà, L'Arpenteuse de rêve, c'est un roman de fantasy. C'est sans doute mon roman le plus magique. Alors, il y a des bas quartiers où ça va mal, mais il y a aussi des super beaux bals de cour et tout. J'adore mettre des beaux costumes dans les romans. Bon, là, ça se voit pas parce que c'est Floriane qui est costumée. Hein. Mais j'adore écrire aussi des super belles forêts de rêve avec des super beaux costumes et tout. Et je pense que c'est nécessaire aussi qu'on ait ça. Et qu'on sache, mine de rien, pourquoi on se bat, qu'on se bat aussi pour la beauté du monde. Il ne faut pas l'oublier.
Alors, dans Ouijigo, ce n'est pas une nature très accueillante.
Alors, ce n'est pas une nature très accueillante, mais elle est belle.
Mais elle est très belle.
Voilà. Et mine de rien, bah, c'est pareil aussi. J'adore écrire sur les océans, écrire donc sur les territoires naturels à peine touchés par l'homme et tout. Et Ouijigo, donc, c'est mon roman chez Albin Michel, donc ça se passe à Terre-Neuve. C'est un groupe de naufragés au XVIIIe siècle, super belle nature, profonde, hyper hostile. C'est la fin du printemps, donc là-bas, en gros, c'est comme notre hiver, mais en plus froid. Et pour la petite anecdote, Ouijigo, je l'ai fini en fait pendant le premier confinement. Donc moi, j'étais enfermée dans mon petit bureau de mon petit appart de banlieue. J'écrivais beaucoup la nuit, enfin j'écris toujours beaucoup la nuit, mais là encore plus. Et donc pendant des nuits et des nuits, j'écrivais ces histoires de gens qui mouraient dans le froid, la neige, etc., avec des monstres. Et quand même, matin, quand il y a l'aube qui se lève, je dis « Ouais, non, mais quand même, quoi, vous êtes dehors, les gens, vous vous rendez pas compte. Vous êtes dehors, la chance que vous avez. » Voilà, et pendant ce temps, ils étaient en train d'avoir des engelures.
Vous mourrez.
Ouais, mais ils mouraient dehors, tu vois, c'était beau. Et mine de rien...
La liberté.
Mais ouais, quelque part. Et voilà, et ça permet aussi... Cette part de rêve de l'imaginaire, je pense qu'elle est vraiment nécessaire pour à la fois réfléchir sur ces enjeux-là, mais y réfléchir aussi, mine de rien, en prenant ce recul et cette distance. Et une des grandes questions dans L'Arpenteuse de rêve, donc au départ, Miri, elle se bat pour sauver sa famille de cœur, comme elle n'a plus de famille biologique. Et elle va se rendre compte, sans trop spoiler, que si elle veut sauver sa famille de cœur, elle ne pourra pas juste la sauver, en fait. Il faut qu'elle participe d'un mouvement plus grand qui change le monde. Et ça, c'est vraiment l'une des choses dont on a beaucoup parlé avec les chercheurs, qui est de dire, oui, c'est bien de faire, nous, des petits actes vertueux. Donc, voilà, j'éteins bien les lumières quand je sors de la pièce, je baisse un peu de chauffage et tout ça. Mais que si on ne fait pas un changement global de façon de vivre le monde, de voir le monde, un changement de société, même si c'est des grands mots qui, par moments, nous font peur, on n'arrivera pas à se sauver. Et c'est aussi cette idée qu'il n'y a pas un endroit qu'on va pouvoir préserver égoïstement pour nous, parce qu'il y a certaines personnes, notamment parmi les plus puissants, qui croient qu'ils vont pouvoir préserver des petites bulles égoïstement pour eux. Sauf que ça ne marche pas comme ça, en fait, parce que, de toute manière, on est tous sur la même planète et on est tous dans le même bateau. Et on peut arriver à parler de ça en fantaisie, en faisant rêver aussi. En tout cas, moi, j'y crois vraiment. Et je crois que c'est une... en tant qu'auteur, quand même, quelle que soit notre place, on a une voix. Et quand on a une voix, on a une responsabilité derrière, quand même.
Eh bien, merci. alors, je vois l'heure qui passe, donc je vais en fait accélérer mes questions. Et on va revenir. Donc, comme j'ai précisé, vous avez tous participé au PLIB, une ou plusieurs fois d'ailleurs, avec plusieurs romans, parce qu'on en a des romans, notamment Floriane. Je sais pas pour David, j'ai un doute. Oui, si. Hein. Mais pas cette année, c'était l'année dernière, voilà, effectivement. Donc vous avez tous été au PLIB au moins une fois, vous l'avez déjà vécu jusqu'au bout. Comment voyez-vous l'évolution du PLIB, que ce soit par rapport aux histoires qui ont été éditées dans le PLIB, qu'on voit, les engagements, le lectorat, les jurés ou autres? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Avez-vous vu une tendance ou une évolution quelconque? Dites-moi tout. Oui.
Je peux commencer. Alors, il y a une chose dont on parle pas mal aussi là, depuis le début du festival avec pas mal de gens, et qui, je trouve, est super précieuse dans le PLIB. C'est que dans le PLIB, c'est vraiment la curiosité des lectrices et des lecteurs qui prime. Et il y a vraiment de tout, et notamment toutes les tailles de maisons d'édition. Parce que, mine de rien, beaucoup de la vitalité de l'imaginaire, elle est faite par des petites maisons d'édition. On voit aussi que souvent, quand même, il y a plus d'autrices, plus forte proportion d'autrices, dans des petites maisons d'édition ou dans des gens qui ne sont pas forcément représentés, donc dans les échelons supérieurs, on va dire, au niveau statut de nos littératures. Et vraiment, il se passe des choses passionnantes là-bas dans des maisons qui par moment n'ont même pas de distributeurs et tout, donc n'ont pas beaucoup de visibilité. Et le plip permet de montrer que finalement, quelle que soit la taille de la maison, quel que soit son statut, quelle que soit la force de frappe dont elle dispose, il y a des super bons livres partout, il y a des livres qui font avancer la littérature partout. Et ça, c'est super précieux. Et je vois vraiment cette diversité de maisons d'édition qui s'est installée dans le plib, mais qui est là dès le début et qui se confirme au fil des éditions. Il y a aussi bien des jeunes autrices, des jeunes auteurs qui arrivent que des gens plus installés. Et c'est de montrer qu'en fait, il faut qu'on avance tous ensemble. Et c'est toute cette diversité-là de l'imaginaire qui fait notre richesse. Et à une époque où beaucoup de prix plus installés vont au contraire aller de plus en plus vers des littératures blanches générales qui objectivement n'ont pas besoin de ça pour vivre et ne vont pas moins nous mépriser pour autant. Le plib, pour moi, est complètement connecté avec ce qui fait notre force, ce qui fait notre richesse, c'est-à-dire au bout d'un moment, le statut qu'on a, oui, ça va nous aider à vendre plus de livres et tout ça, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est les livres qui s'écrivent, c'est les histoires qui se racontent, et le plib permet vraiment de se reconnecter avec cet essentiel-là. Donc merci beaucoup pour le boulot que vous faites. Voilà.
Merci aux lectrices et aux lecteurs.
En termes d'évolution, j'avais deux romans qui avaient été... Il y avait Le garçon avec qui ne souriait plus, mais qui était resté dans les 25. J'étais très content. La princesse au visage de nuit, qui vous savez, le plib, c'est une sélection de 180, 200, 200 romans.
232 dans la dernière romans, édition. 80 ouais. Ensuite, 25, 5, et Le gagnant.
Ouais, et ça dure
un an.
Ouais, et ça dure un an. Et La princesse au visage de nuit est arrivée dans les 5 finalistes. Ce qui est, et du coup, là, j'ai pas vu de progression concernant mes romans. Ce que je remarque, au-delà de tout ce qu'a dit Estelle, qui est très vrai, hein, c'est qu'il y a une vraie vitalité, parce qu'en fait, les petites maisons d'édition, elles fonctionnent souvent plus au coup de cœur, et souvent d'ailleurs que au coup de cœur, et c'est génial, parce qu'elles n'ont pas toutes ces considérations de ça a marché, ça n'a pas marché, etc. Et du coup, elles se permettent des choses que les grosses ne font pas. Et donc, s'il y a une vraie vitalité, effectivement, je crois qu'il y a un vrai besoin de ce genre de prix pour pouvoir promouvoir, aider, et faire que ces voix-là parle au plus de monde possible. Et c'est important. Et en plus, ça marche. La princesse au visage de nuit, juste pour vous donner un exemple, c'est mon roman qui a été le plus chroniqué sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et c'est grâce au plib. Parce qu'en fait, le plib, il y a des chroniques derrière.
Parce que c'est obligatoire. Pour les 5 finalistes, une chronique est obligatoire par juré. Donc effectivement, oui, il y a une grosse...
Pareil pour les Seigneurs de Bohème, hein, encore une fois... Ouais, le plib, c'est quand même un grand format qui est à plus de 20 € et il a eu 2 réimpressions en grand format et c'est clairement grâce au plib, En plus, ça permet à des romans de s'installer sur la durée. C'est-à-dire que mon éditeur, tout à coup, pour Les Seigneurs de Bohème, il a vu arriver toute une deuxième vague de chroniques qui était quand même plusieurs mois après sa sortie et tout.
Oui,
et
ouais, non, mais...
oui, non, mais voilà,
on a
justement.
Du retard.
Parce qu'il y a souvent. Non, c'est pas du retard, au contraire, ça permet de faire exister les livres sur la durée. Ce qui, notamment en littérature adulte, est un enjeu très important. Parce qu'en littérature adulte, il y a quand même encore cette pensée. En jeunesse, les livres peuvent s'installer plus sur la durée quand même. Mais en littérature adulte, souvent, c'est l'idée que, ouais, non, mais de toute manière, si ça marche pas dans les 3 mois, c'est mort, quoi.
Et parfois, ça relance aussi pour le tome 2, parce que
voilà,
souvent,
clairement.
C'est plus difficile pour un tome 2.
Et c'est vrai que le plib permet aussi ça, permet de montrer que non, un livre, il n'est pas périmé, entre guillemets, au bout de 3 mois. Et ouais, pareil, les chroniques et tout, oui, bien que ça fait un livre, j'ai vu.
On n'en a pas parlé, parce qu'effectivement, mais c'était un des sujets que j'aurais voulu aborder, c'était la rapidité à laquelle les romans, c'est un peu des Kleenex. ça part très vite, malheureusement. Bon, mais... Une prochaine conférence sur le sujet.
Et après, juste ouais, sur le sujet, si je peux vraiment aussi dire une chose, c'est que je vois quand même, sur la longévité des livres, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'éditeurs qui réfléchissent là-dessus. Parce qu'en table ronde, aux IMA, on voit les lecteurs et c'est cool. Maintenant, aussi, on a quand même... Tout n'est pas parfait. Mais on a des éditeurs qui réfléchissent énormément sur comment faire vivre les livres sur la durée, comment installer des choses sur la durée, comment créer des cercles plus vertueux. Et ça existe aussi, ça fait partie des réflexions qui sont menées dans les coulisses. Donc on n'est pas tout seul, nous, le lectorat, et puis les auteurs, les autrices. De plus en plus aussi, du côté des éditeurs, on a vraiment des gens qui, sur pas mal de sujets, veulent aussi avancer avec nous.
Oui, il y a plein de petites maisons d'édition qui publient un nombre limité de romans par an. Par exemple, les Forges de Vulcain, ils publient que 10 romans par an. Comme ça, il peut vraiment, derrière, aller défendre ses auteurs et ses livres sur la durée. Et je trouve que c'est des initiatives qui sont hyper importantes parce qu'on est noyé de bouquins et ça participe à ce côté jetable et en tout cas, cette durée de vie hyper limitée des romans, quoi.
Oui, alors je voudrais juste rajouter, donc, pour que tout le monde le sache, Il y a 234 romans au PLIB, et pour rappel, c'est que des francophones et ses parents, alors qu'il y a 500 références dans l'imaginaire qui sortent par mois. Donc forcément, c'est des étrangers aussi. Donc c'est effectivement noyé. Et quelque part, il faudrait donc racheter plus de francophones.
Plus de femmes francophones.
Ouais, et puis...
Mais n'oublions pas les auteurs.
Non, mais un petit parent,
peu les auteurs aussi, quand même.
David, parent, un parent. Ça...
Non, et puis aussi, y a, disons, c'est pareil, c'est tout un système. C'est-à-dire que, par exemple, Floriane aussi, et comme on en a parlé souvent, comment, quand on a sorti notre premier roman ou notre deuxième roman, et tout de suite, il y a des gens qui sont là, ouais, mais alors, il est pour quand le prochain et tout, mais il faut que tu sortes minimum un roman adulte par an, sinon tu vas te faire oublier et tout ça. Enfin, voilà, il y a aussi
c'est
toute une partie du système qui pousse à ça. Et le problème, c'est que comme les auteurs, quand même, on n'est pas beaucoup payés. C'est aussi une idée que bah, si tu veux après gagner plus ta vie avec ça et tout, il faut que tu sortes plus de livres, il faut que tu raccourcisses tes deadlines. Et moi, j'ai la chance en ce moment de justement pouvoir prendre le temps pour écrire mes livres et j'y tiens et c'est super précieux. Et... Mais je sais qu'il y a d'autres autrices, d'autres auteurs qui n'ont pas forcément cette chance et je ne vais pas leur jeter la pierre non plus parce que c'est un métier et un milieu super difficile. Mais voilà, plus aussi, mieux on va rémunérer l'écriture. Moins on aura besoin, moins on aura des auteurs et des autrices qui auront besoin de produire désespérément pour s'en sortir. Donc c'est vraiment un système entier qu'il faut questionner pour créer des cercles vertueux, quoi.
Puis en plus, en fait, tout le monde n'a pas la capacité d'écrire plus d'un roman par an, en fait. Mais clairement. C'est-à-dire mental, physique,
ça met une
économique.
Charge,
enfin, c'est dur
hein,
d'écrire un roman. Enfin, c'est dur. Mais tout le monde ne peut pas. Même si on a envie, des fois, c'est difficile de dégager un espace mental pour écrire
parce
un roman.
Parce que c'est pas que c'est pas qu'un mois de travail.
C'est ben non, c'est plusieurs mois. C'est de la recherche. C'est des corrections. Enfin, c'est dur. Du coup, enfin, tout le monde n'a pas cette capacité-là de le faire. Et la pression que ça rajoute de se dire, ben moi, pendant deux temps, j'ai pas pu écrire. Hein. Alors aussi parce que les festivals, c'est fatigant. Moi, je travaille à côté, donc j'étais épuisée. Mais en fait, on avait telle pression après Rouille de me dire « Ah, mais ton roman a super bien marché, tout le monde t'attend au tournant, c'est quand le deuxième et tout, il faut, en gros, il faut transformer l'essai. » Heureusement que j'avais déjà écrit les noces, en fait, parce que sinon, j'ai pas pu écrire du tout. J'étais complètement bloquée. Et il m'a fallu du temps pour me sortir de cette pression-là à la publication, parce qu'on me disait, en fait, parce qu'en fait, de fait, beaucoup d'auteurs se sont mis à écrire tous les ans. Parce qu'on intègre, tu vois, c'est des choses qu'on intègre qu'il faut publier, quoi. Et c'est dur.
Tu écris tous les deux livres par an, Georgia.
Bah ouais, bah tu vois, ça m'étonne pas.
Mais c'est pour des questions
économiques.
Merci. Typiquement, moi, j'écris deux livres par an, mais je fais que ça. Hein, c'est ma seule activité, et c'est un rythme qui est extrêmement dur à tenir. Là j'espère pouvoir ralentir un petit peu le rythme parce que ça fait 13 ans que j'écris et ouais je suis un petit peu sur les rotules. Alors même si heureusement l'inspiration est toujours là parce que je lis énormément et il y a tellement de super choses que je trouve un peu partout et qui m'inspirent, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Et voilà, donc ça, c'est pas un problème. Après, vraiment, ouais, si je fais ça, c'est parce que j'en vis et que du coup, je dois en vivre. Donc, je dois produire beaucoup, être toujours présente. Ah bah oui, on m'attend quand je sors un tome 1... Un an, c'est trop pour les lecteurs, en fait, entre le tome 1 et le tome 2. Entre-temps, ils oublient l'histoire. Donc, il faut que ce soit rapide. Il faut que ce soit moins de 6 mois entre les deux tomes. Et c'est difficile à faire.
Vraiment, tu vois ce que tu me dis, ça donne beaucoup. Parce que je vois plein de collègues qui soient auteurs à temps plein ou qu'ils aient un boulot à côté, il y en a tellement qui sont épuisés, il y en a tellement qui sont complètement au bord du burn-out et en train quand même de vivre des choses vraiment difficiles à cause de tous ces enjeux-là, de toutes ces pressions-là, économiques, psychologiques, etc. Et moi, ce qui me prend vraiment du temps, le truc qui me prend le plus de temps et d'énergie à écrire, c'est clairement les romans adultes. En plus, mis à part l'anomalie des Seigneurs de Bohème, c'est clairement les moins payés, donc ouais, je fais des super chouettes carrières. Mais là, par exemple, je suis en train de bosser sur un projet adulte que je porte depuis 15 ans. Et cette année, je ne sortirai pas de nouveau roman adulte. Et ce n'est pas grave. Et au contraire, moi, je suis très contente de pouvoir aussi parce qu'il y a mon éditeur qui est toujours derrière en train de soutenir Wijigo, mais de pouvoir donner le temps à Wijigo de vivre, de ne pas avoir tout de suite un nouveau roman adulte à défendre à la place, parce que c'est tellement dur de défendre un roman adulte. Après, je sais que c'est aussi un luxe, quelque part, de pouvoir raisonner comme ça, et que tout le monde ne l'a pas. Et d'avoir un éditeur, pareil, qui soutienne vraiment les romans sur la durée, mais il y a aussi des éditeurs qui ne peuvent pas se le permettre économiquement aussi. Enfin, il y a des enjeux qui ne sont pas que des enjeux moraux ou humains, il y a aussi vraiment des enjeux économiques dont tu parlais très bien derrière, quoi. Et oui, c'est tout un système, encore une fois, qui est difficile à faire bouger. Et de toute manière, nous, tout seuls, toutes seules, on ne peut pas le faire bouger en entier. Et c'est chacun qui amène sa petite pierre, quoi.
Bon, on arrive vers la fin. Donc est-ce qu'il y a des questions, quand même ? S'il n'y a pas de questions, je vais passer. Alors, je voudrais juste... tout à l'heure, on n'a pas eu le... Oui ? Eh ben oui. Écoute, ma foi, bien.
Alors, pour expliquer, mon monde est très, très différent de la SFFF. Donc, je suis un ingénieur, je gère deux équipes dans la banque. Donc, c'est clairement quelque chose qui est très, très différent. Et je travaille beaucoup dans l'innovation aussi. Donc, il y a des choses qui sont arrivées, qui je vois aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle, comme les voyages spatiaux avec SpaceX et des choses comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été décrites pleinement dans la littérature. Et je me suis posé la question, est-ce que dans vos écrits, la façon dont vous gérez en fait, vos publications, est-ce que vous pensez à l'impact que vous pouvez avoir dans votre imaginaire et de ce que vous pouvez avoir sur la science en elle-même ?
Très bonne question.
Alors, l'impact sur la science, personnellement, non, parce que c'est pas... Même dans mon roman de science-fiction, enfin dans ma trilogie Les Brumes de Sandrine de science-fiction, j'apporte rien, en fait, au niveau des sciences qui pourraient faire évoluer quoi que ce soit. Enfin, je pense pas. C'est des concepts trop éloignés. Il est question d'intelligence artificielle et de robots, mais ça va beaucoup trop loin en fait par rapport à ce dont on est capable aujourd'hui pour que ça puisse orienter quoi que ce soit. En revanche, ce que j'espère, ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est que ça fasse questionner les lecteurs autant que moi je peux me questionner quand j'écris le livre. Voilà, c'est... Et du coup, essayer de reconsidérer les choses sous un angle un peu différent et effectivement de s'éloigner notre réalité dans laquelle on est souvent un peu embourbé, étouffé, prendre du recul pour avoir un regard un petit peu différent sur ces problématiques et peut-être plus optimiste.
Alors, moi, j'ai deux trucs qui me sont venus à l'esprit quand tu as posé la question. Moi, un de mes chevals de bataille, c'est la transhumanité. Parce que je pense qu'on est déjà dedans et qu'on ne s'en rend pas compte. Et du coup, j'aimerais bien amener des éléments comme ça pour rappeler et essayer de, en déportant, comme tu disais, le contexte, montrer qu'en fait, on est déjà dedans et qu'on y arrive. Et qu'en fait, dans ma vision un peu bizarre du monde, je me dis que l'humanité, elle a deux voies d'évolution. C'est soit le transhumanisme, soit les IA. Et qu'il faudra faire un choix à un moment probablement, mais qu'on est déjà avancé en fait dans un des chemins et de voir qu'est-ce qu'on en fera après. Et pour le coup, je dirais que c'est pas trop dans les oubliés de la main que j'ai voulu explorer ces questions-là, mais parce que c'est comme tu dis beaucoup trop lointain. Enfin, c'est des technologies qui sont déjà tellement éloignées de ce qu'on peut faire que ça a pas trop d'intérêt. Et en plus, on fait pas du science porn, donc en fait, on décrit pas de concepts vraiment mécaniques importants qui pourraient donner des idées comme le ferait Asimov, par contre, à l'époque, par exemple. Mais dans mes nouvelles, par exemple, je trouve que c'est un laboratoire qui est hyper intéressant, et notamment dans une des nouvelles que j'ai écrites pour ActuSF dans Par-delà l'horizon, je parle des humains sur Terre qui, voyant que tout se casse la gueule et que les ressources deviennent de plus en plus rares, se disent en fait il va falloir peut-être aller chercher d'autres planètes. Et ils veulent créer une intelligence artificielle pour aller chercher pour eux une autre planète, parce que en fait sur Terre ils sont tellement si peu nombreux qu'en fait ils peuvent pas se permettre de sacrifier quelqu'un. Donc ils décident de créer cette intelligence artificielle. Et du coup, ça permettait de questionner comment tu crées une intelligence artificielle, quelle est l'éthique que tu mets derrière ça, à partir de quel moment tu considères que l'intelligence que tu as créée est autonome ou pas, que c'est une personne, quel est le droit que tu as sur son corps, si tu lui en donnes un, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, c'est des questions, je pense, qu'on va devoir se poser à plus ou moins long terme, parce que c'est aussi une voie qu'on explore de plus en plus. Et du coup, là, c'était intéressant de se dire, comment tu entraînes une intelligence artificielle à répondre à des questions que, par essence, un humain pourrait adresser, quoi. Et donc, bon, alors j'espère que dans ma nouvelle, j'espère que la ligne va venir, c'est pas dans ma nouvelle parce que sinon c'est vraiment tout pourri. Mais en tout cas, là c'est, je trouvais que c'était plus intéressant de le faire comme ça que dans un roman où justement, comme on écrit de l'imaginaire, on veut de l'évasion aussi, on veut des questions, mais on veut aussi s'amuser. Et du coup, si tu veux faire du space op, bah, il faut quand même que tu aies accès à un minimum de technologie hyper avancée pour pouvoir le faire, quoi.
Ben alors, moi dans mon space op, c'est très centré. Quand même roman d'aventure, même si derrière...
Bah, c'est les nuages de Magellan.
Ouais, les nuages de Magellan. Même si, alors moi, je suis une famille de scientifiques, hein, je suis cernée, je suis la seule littéraire. Voilà. Par contre, ma nièce qui a 3 ans, elle commence à beaucoup lire, hein, donc on ne sait jamais. Voilà. Mais même pour même si c'est avant tout de l'aventure, c'est vrai que les vaisseaux des nuages de Magellan, bah, pour le coup, je les ai construits, entre guillemets, en prenant le thé avec ma mère pour qu'ils soient, pour moi, un minimum crédible scientifiquement. Après, en fait, ça ne se retrouve pas du tout dans le bouquin. Mais c'était des discussions super cool. Et c'est plus donc dans ma série de post-apo, Un éclat de givre, un reflet de lune, où là, quand même, je me suis documentée au maximum sur tout ce qui est donc, les énergies renouvelables, sur tout ce qui est aussi, mine de rien, des cultures qui soient moins prédatrices, néfastes pour la planète. Enfin, comment arriver à faire vivre l'humanité en dévastant moins de ressources ? Comment arriver à faire des cultures plus pérennes, comment arriver à faire des énergies, encore une fois, moins destructrices et tout ça. Et même si ce n'est pas mis en avant, parce qu'avant tout, on switchette dans ses aventures et il a la poisse et il va toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais mine de rien, en fond, je voulais que ma ville, qui survit au milieu d'un monde dévasté, elle soit crédible et elle puisse proposer une alternative quand même d'existence sur tous ces plans-là. Donc je me suis pas mal renseignée, je suis allée parler à des gens qui savent et pour essayer quand même que ça tienne la route et pour dire aussi, mine de rien, on peut peut-être essayer de proposer des futurs où on ne soit pas en train de devoir absolument dévorer tout notre environnement pour nous vivre.
Alors, bah, merci à tous parce qu'il va falloir qu'on...
Non, bah, juste en 2 secondes, en fait, moi je suis le moins scientifique des 4 et moi j'ai une position de lecteur et moi je suis hyper intéressé parce que je pense à un vrai enjeu de société, c'est la transhumanité, l'interface homme-machine qui va forcément, je pense, arriver à un moment. Et en tant que lecteur, c'est pour ça que la littérature de l'imaginaire et notamment la SF sur ces aspects-là est passionnante. Il faut qu'on lise de la SF parce qu'en fait, lire de la SF, c'est déjà se préoccuper de toutes ces questions dont vous parlez dans vos romans et c'est génial. Non seulement c'est intéressant, mais c'est aussi... humainement, super important de se projeter parce que les choix qu'on aura à faire, parce qu'on aura à faire des choix, toute la vie de l'humanité, c'est une question de choix. Il faut les faire, je crois, en connaissance de cause. Donc, écrivez de la SF, s'il vous plaît.
Alors, juste pour répondre à la question également, sachez que l'armée française a fait appel à des auteurs. Alors, je ne me rappelle plus exactement. Peut-être
la
que
Red
vous...
Team.
Voilà, la Red Team. À des auteurs, il n'y avait pas de femmes, hein, n'est-ce pas ? C'était des hommes qui ont expliqué un petit peu leur vision de l'avenir et donc des technologies pour aider l'armée française à inventer de nouvelles choses. Voilà, c'était pour finir, parce qu'on doit partir et libérer la salle. Merci à tous, merci beaucoup, et merci d'avoir été là. Merci.